Il paraissait souvent perdu dans ses pensées, en proie à son imagination, tel un homme dont l'avenir est écrit d'avance et qui a décidé de s'y opposer. Il ne se croyait pas célèbre au point d'être reconnu par la plupart de ses lecteurs, et moins encore par les gens indifférents à son œuvre. Seuls ses inconditionnels le repéraient, des femmes essentiellement, des femmes mûres, et aussi nombre d'étudiantes qui comptaient parmi ses ferventes lectrices. À son avis, ce n'était pas le sujet de ses livres qui leur plaisait. Il disait toujours que les femmes raffolaient des romans et pas les hommes. Il n'avait pas de théorie sur la question, c'était un fait. Il l'observait, voilà tout. Du reste, il n'avait rien d'un théoricien. La spéculation n'était pas son fort. On citait volontiers sa réponse à un journaliste qui, lors d'une interview, l'avait invité à spéculer sur un sujet rebattu. Moi, je ne spécule pas, je me contente d'observer, de décrire. Le journaliste, un jeune homme tenace, avait insisté. Ce corps de métier se plaît aux spéculations et demande toujours aux écrivains si le roman est mort ou moribond. N'oublions pas que Juan Diego avait arraché aux flammes de la décharge infernale les premiers livres qu'il avait lus et qu'il s'était brûlé les mains pour les sauver. Il était bien la dernière personne à qui poser la question. « Vous en connaissez les femmes ?» avait-il demandé au jeune homme. « Je vous parle de femmes qui lisent. » Il haussait le ton. « Adressez-vous donc aux femmes. Demandez-leur ce qu'elles disent. » Là, il gueulait carrément. « Le jour où les femmes cesseront de lire, alors oui, ce sera la mort du roman. » Les auteurs qui ont un public comptent davantage de lecteurs qui ne le croient. Juan Diego était plus célèbre qu'il ne se le figurait. Cette fois, ce furent une mère et sa fille qui le découvrirent, comme seuls savaient le faire ses lectrices les plus passionnées. « Même déguisé, je vous aurais reconnu n'importe où, » lui dit la mère quelque peu offensive. À l'entendre, on aurait pu croire qu'il avait tenté de lui échapper. Ce regard pénétrant lui rappelait quelque chose. Bien sûr, c'était la statue monumentale et écrasante qui toisait ses fidèles avec une expression pareille, sans que Juan Diego puisse décider si elle était compatissante ou impitoyable. Il ne se serait pas prononcé non plus sur cette mère élégante. Quant à la fille, qui comptait aussi parmi ses admiratrices, elle lui parut plutôt plus facile à situer. « Je vous aurais reconnu dans le noir. Il aurait suffi que vous me parliez. « Sans même prononcer une phrase, » lui confia-t-elle avec un peu trop de ferveur. « C'est votre voix, » poursuivit-elle en frémissant comme si elle n'arrivait pas à terminer sa phrase. Elle était jeune et faisait de l'effet, une beauté rustique, la cheville et le poignet épais, la hanche puissante, la poitrine basse. Elle avait la peau plus mate que sa mère, les traits plus saillants, moins délicats, et puis surtout elle s'exprimait de façon plus directe, plus abrupte. Juan Diego songeait que sa petite sœur l'aurait déclaré plus comme nous, voulant dire plus indigène. À son grand désarroi, voilà qu'il se mettait à imaginer les figurines racoleuses que la boutique de bondieuserie aurait fabriquées de cette mère et de sa fille. On y aurait exagéré la mise décontractée de la fille, sans qu'il puisse dire si ses vêtements étaient négligés ou si elle les portait avec désinvolture. On aurait donné à son mannequin grandeur nature une posture d'invite, un peu putassière, comme s'il était impossible de contenir ses hanches rondes, à moins que ces détails n'aient relevé de son fantasme. Mais la boutique de bondieuserie que les gosses de la décharge appelaient parfois la nana n'aurait jamais pu réaliser un mannequin à la hauteur de la mère de ce duo. D'une beauté classique, elle avait un air bien né, un raffinement évident. Elle dégageait une aura de luxe et de supériorité, une sorte de distinction naturelle. Si cette mère, temporairement bloquée dans les salons de la première classe à JFK, avait été la Vierge Marie, personne n'aurait eu l'idée de l'expédier dans la crèche, on lui aurait fait de la place à l'auberge. La boutique de la Calle Independencia n'aurait jamais pu la reproduire. Elle était à l'abri du stéréotype, aucune poupée gonflable à son effigie. La mère était plutôt un spécimen unique, pas de la même espèce qu'eux. Chez les fournisseurs de cotillons, pas de place pour elle, invendable. D'ailleurs, on n'aurait pas songé à la ramener chez soi, du moins pas pour distraire ses invités adultes ni pour amuser les enfants. En fait, on aurait voulu la garder pour soi tout seul. Allez savoir comment, sans qu'il se soit ouvert des sentiments que lui inspiraient les deux femmes, elle semblait tout connaître de lui. Car malgré leurs différences apparentes, mère et fille faisaient équipe. Elle s'était promptement ingérée dans ce qu'elle percevait comme la précarité absolue de sa situation, voire de son existence même. Juan Diego était fatigué, ce qu'il mettait sur le compte des bêta-bloquants, de sorte qu'il ne s'était guère débattu. En bref, il avait laissé les deux femmes le prendre en charge. Il faut dire que sa capitulation s'était produite au bout de 24 heures d'attente dans les salons de première classe. Animé des meilleures intentions, les collègues et amis de Juan Diego lui avaient programmé une escale de 2 jours à Hong Kong. 2 jours qui se réduiraient désormais à un seul puisqu'il prendrait une correspondance de bonne heure pour Manille. « Où descendez-vous à Hong Kong ?» lui demanda la mère qui s'appelait Myriam. Elle ne s'embarrassa pas de circonlocution. Avec son regard pénétrant, elle allait droit au but. « Où aviez-vous prévu de descendre ?» rectifia la fille qui s'appelait Dorothy. Elle ne tenait guère de sa mère, avait remarqué Juan Diego. Elle avait le même côté direct, mais elle était loin d'être aussi belle. Qu'y avait-il chez Juan Diego pour que les gens les plus volontaires se figurent autorisés à gérer ses affaires ? Clark French, son ancien élève, s'était ainsi immiscé dans son voyage aux Philippines, et voilà que ces deux femmes, inconnues de surcroît, étaient en train de prendre en main ses dispositions à Hong Kong. Elles avaient dû déceler chez lui le voyageur novice lorsqu'il avait consulté son itinéraire pour savoir le nom de son hôtel. Le temps qu'il cherche ses lunettes dans la poche de sa veste, la mère s'était emparée du planning. « Oh mon Dieu, il n'est pas question que vous vous installiez à l'Intercontinental Grand Stanford. C'est à 1 heure de l'aéroport, » s'exclama-t-elle. « À Kowloon, » renchérit la fille. « Il y a un hôtel très bien à l'aéroport, c'est là qu'il faut descendre, » conclut Myriam. « On y a nos habitudes, » soupira Dorothy. Juan Diego objecta qu'il lui faudrait annuler une réservation pour en faire une autre, mais il n'alla pas jusqu'au bout de sa phrase. « C'est comme si c'était fait !» annonça la fille dont les doigts s'envolèrent sur le clavier. Juan Diego s'émerveillait toujours de voir les jeunes générations se servir de leur portable en permanence sans jamais les brancher. Ils n'avaient donc pas besoin de les recharger ? Et quand ils n'étaient pas collés à leurs ordinateurs, ils envoyaient des textos en rafale et leur cellulaire semblait avoir une batterie inusable. « Je me suis dit que... « Je partais trop loin pour emporter mon ordinateur, » expliqua-t-il à la mère, qui lui jeta un regard de pitié. « Je l'ai laissé chez moi, » ajouta-t-il d'un air penaud à l'intention de la fille scotchée à son écran, où les images se succédaient sans trêve. « J'annule votre chambre avec vue sur le port, » dit celle-ci, « vos 2 nuits à l'Intercontinental, fini. Et je vous prends une suite au Regal Airport Hotel. Il est moins vulgaire que son nom le laisse supposer, malgré les décorations de Noël et autres niaiseries de circonstances. » « Une seule nuit, Dorothy, » lui rappela sa mère. « J'ai bien compris. Il y a un truc bizarre dans cet hôtel, c'est la façon d'allumer et d'éteindre, » dit-elle à Juan Diego. « On lui montrera, Dorothy. J'ai tout lu de vous, jusqu'à la dernière syllabe, » poursuivit Myriam en posant la main sur son poignet. « Moi, j'ai presque tout lu, » dit Dorothy. « Il t'en manque 2, » fit observer la mère. « 2, tu parles, ça s'appelle presque tout, non ?» Juan Diego ne put que répondre, « Mais oui, presque. » Il n'aurait pas su dire si ces deux femmes flirtaient avec lui, si c'était plutôt la fille ou la mère, ou bien ni l'une ni l'autre. Cette ignorance montrait bien qu'il avait vieilli prématurément, mais pour être honnête, il était hors circuit depuis des lustres. Cela faisait longtemps qu'il n'était pas sorti avec une femme, et d'ailleurs, il n'avait jamais multiplié les conquêtes. Ce dont avaient dû se douter ces deux voyageuses perspicaces. Est-ce que les femmes le voyaient dès l'abord comme un homme blessé ? Leur faisait-il l'effet d'avoir perdu l'amour de sa vie ? Qu'est-ce qui pouvait leur donner à penser qu'il était inconsolable ? « J'adore les scènes érotiques dans vos romans, » lui dit Dorothy. « J'aime bien comment vous les présentez. »« Et moi encore plus, » dit Myriam en jetant à sa fille un regard averti. « J'ai assez de recul pour m'y connaître en relations sexuelles calamiteuses. »« Maman, je t'en prie. » « Ne va pas nous faire un dessin !» Myriam ne portait pas d'alliance. Juan Diego l'avait remarqué. C'était une grande femme ultra mince, tendue, un air d'impatience dans son tailleur pantalon gris perle et son t-shirt argenté. Ses cheveux blonds clairs ne devaient pas tout à la nature, et son visage avait sans doute subi quelques retouches, après un divorce peut-être,